Bonsoir à toutes et à tous. J'ai reçu quelques questions, donc je vais brièvement réagir. Merci pour ces questions. Alors, il y a une première question. De quoi est-on sauvé? La réponse est-elle relative au moment historique où l'on se trouve? Alors, si on pose la question de cette manière-là, moi, je dirais tout simplement, de quoi est-on sauvé? Du péché et de la mort. Alors, évidemment, après, il faut essayer de comprendre ce que cela veut dire. Mais voilà, au moins sur ce point, la tradition est tout à fait unanime. Du péché et, disons, avec l'Apocalypse, de la seconde mort. De la seconde mort. Alors, vous voyez à la page 86, on a commencé à traiter cette question. Il y en a deux qui restaient. La question théologique du péché et du salut dans le cadre de la création d'un homme bon en sa racine, et la question culturelle du lien entre finitude ou mortalité et péché. Donc, on va y venir. Un petit peu de patience, donc, pour commencer à préciser un peu cette question. Mais ça me permet de préciser un point. Vous voyez, la première partie du cours a posé finalement une question, je dirais, plus fondamentale, et j'ai passé beaucoup de temps à la traiter. Quel est le lien finalement entre le Sauveur, le Messie et toute l'humanité? Ça, c'est une question beaucoup plus élémentaire d'une certaine manière, et la première à aborder et à traiter de fond. Alors du coup, voilà, il y a plusieurs modèles. Vous rappelez, c'était la fin de la première partie. On a fait tout un parcours historique autour de ça. Alors maintenant, dans la deuxième partie, ce lien étant présupposé, il faut évidemment le penser, que produit-il en nous, entre nous, aujourd'hui? Et c'est à cet endroit-là qu'intervient évidemment la question très concrète, de quoi sommes-nous sauvés? Voilà. Donc, pour préciser ça. Donc, j'ai dit, la deuxième partie tente vraiment de répondre à cette question. Alors, vous avez vu aussi à la page 81, alors ça c'est une deuxième question qui m'a posée, à la page 81, vous définissez le salut comme le bonheur qui rend pleinement humain. Qu'est-ce à dire? Évidemment, je dirais pour le moment, ce n'est qu'une hypothèse. Vous voyez. J'ai anticipé un peu toute la fin de la première partie. Mais la question mérite vraiment d'être posée. Elle est très bien posée. Est-ce que le bonheur serait un indicateur du niveau d'humanité atteint? Alors évidemment, tout de suite la question, quel bonheur? Que veut dire heureux? Heureux les pauvres, etc., etc. Alors, ensuite, une personne soumise au conditionnement du handicap, contraire au mode ordinaire d'accomplissement de son humanité, si elle parvient au bonheur, pourrait-elle dire qu'elle est devenue pleinement humaine? Bon, j'ai envie de dire oui. Ça lui appartient, évidemment, de le dire. Et parfois, on a des confidences de ce type, on peut voir ça. Mais on va bien ici, je dirais, à quel point la notion pleinement humain et bonheur doivent être précisées. Donc j'espère d'y pouvoir venir à la fin de cette partie et dans la dernière partie. Alors, il y a encore une autre question. Serait-il légitime d'ajouter au point 3, donc on est en bas de la page 81, donc, sur le modèle généalogique, vous voyez là, le modèle généalogique est parfaitement adapté à cette double perspective, à la fois contemporaine et théologique, les deux perspectives se reliant dans un même intérêt pour la genèse des choses, la genèse de la société et la genèse de la foi en un salut. On va y venir tout de suite. Alors, la personne pose la question, serait-il légitime d'ajouter la genèse de soi à la genèse de la société, à la genèse de la foi en un salut, ou comme une façon de renommer cette dernière, c'est-à-dire la genèse de la foi en un salut. Oui, j'ai dit, il faut ajouter évidemment la genèse de soi, l'itinéraire personnel, participe radicalement à la définition du salut. On va le voir, évidemment. Mais on ne peut pas réduire le salut au devenir soi. Donc il faut la pluralité des perspectives. Voilà, pour réagir très rapidement un peu par rapport à ces questions. Alors, nous sommes évidemment, je dirais, dans le premier chapitre de cette partie, que nous allons rapidement terminer, un chapitre de nouveau d'écriture de l'Épître aux Romains à la Genèse, une structure biblique controversée. Et dans un premier point, donc à partir de la page 82, je vous ai proposé les quatre objections qui sont faites maintenant à ce schéma classique qui nous vient, voilà, d'un saint Augustin vulgarisé, pourrait-on dire, ce schéma linéaire. Donc l'impossibilité de concevoir un état paradisiaque de l'homme, pour les sciences, le problème de la causalité adamique, la linéarité de l'argument classique et finalement une vision royale de l'universalité et aux pages 84, 85 et 86, j'ai tenté de reprendre un peu cette question à partir du modèle généalogique en distinguant notamment le commencement, la notion de commencement et la notion d'origine. La notion d'origine indiquant un rapport continuel qui se manifeste dans l'énigme du commencement, par exemple de notre naissance, mais qui est un rapport permanent. Voilà, alors nous en venons maintenant à la question, aux deux questions que je repoussais d'une certaine manière, continuellement, et d'abord la question du péché, le problème théologique du péché et du salut, distinction de plusieurs niveaux où le poids du péché et sa gravité. Donc de quoi sommes-nous sauvés? Du péché. Donc ça c'est la première question que nous allons aborder. Donc et vous vous rappelez, il y a un premier niveau, c'est-à-dire, au fond, la mise en difficulté d'une approche purement éthique de l'être humain. C'est là où intervient l'expérience de péché, l'expérience de fragilité radicale, de vulnérabilité, de séductibilité. Il ne va pas de soi que l'homme soit un être bon, éthiquement bon. C'est un être traversé par la violence, par les pulsions, etc. Alors ça, c'est le premier niveau. Ensuite vient évidemment la question de la responsabilité, et c'est là où on va retrouver la question du péché originel, et finalement la conséquence du péché, et par le péché, la mort. Alors d'abord, je dirais le premier niveau, et chaque fois, on va visiter d'abord l'Épître aux Romains, et ensuite, rapidement, la Genèse. Alors ce qui est important, c'est de percevoir chaque fois le point de départ expérimental, l'expérience du péché. Alors le point de départ dans l'Épître aux Romains, je le dis tout de suite, ce n'est pas l'expérience de culpabilité ou du remords. Ce qui est souvent le cas, je dirais, dans l'histoire spirituelle, de la spiritualité. Mais le point de départ chez Paul, c'est l'expérience de la division intérieure de l'être humain. Ça mérite vraiment d'être remarqué et noté, et aussi évidemment d'un point de vue pastoral. Paul ne joue pas sur nos culpabilités ou nos remords. C'est l'expérience de division. Donc j'ai explicité un tout petit peu ça, c'est le chapitre 7 de l'Épître aux Romains, avec donc le point de départ, le discours en jeu, la loi étant bonne, résumée finalement dans un seul commandement qui est à la jonction de l'éthique et du théologal, c'est-à-dire c'est la notion de convoitise, tu ne convoiteras pas, tu ne mettras pas la main sur les choses, sur l'autre, ni sur toi-même. et ce qui révèle évidemment la propension qui existe en tout être humain, la propension à la convoitise. Donc c'est ce côté affectif et pulsionnel qui est mis en avant par la loi, qui est révélé d'une certaine manière par la loi. Et du coup, apparaît l'expérience de division. Je ne comprends rien à ce que je fais. Ce que je veux, je ne le fais pas. Mais ce que je hais, je le fais. Voilà. Cette sorte de division. À la fois, je suis d'accord avec la loi, peut-être intellectuellement, mais je découvre effectivement dans les faits que je n'y concorde pas. Je ne suis pas effectivement en accord avec elle. Donc le vouloir le bien est bien à ma portée, mais non pas l'accomplir. Donc cette notion de division intérieure comme point de départ. Et on peut lire l'Épître aux Romains, ce que nous allons faire maintenant, dans les chapitres notamment 1 à 3 et 5, comme une volonté, une analyse généalogique, maintenant, au sens le plus fort du terme, de sonder ce qu'on peut appeler la gravité, la profondeur du péché, ou la gravité du péché. Donc, on fait cela, évidemment, dans toute la structure biblique, en remontant vers l'origine. Alors, d'abord, les chapitres 1 à 3. C'est là où se repère ce passage, difficile pour nous à percevoir, de l'expérience éthique, qui est radicalement fragilisée, vers l'expérience théologale comme source ultime de l'existence humaine, et en même temps, comme source, comme lieu de perversion possible, et donc expérience du péché qui s'enracine ultimement dans une inversion de la source théologale qui est en tout être humain. Ce que Gaudium et Spes numéro 3, paragraphe 2, appelle le germe divin, c'est une manière de s'exprimer, en tout être humain. C'est pourquoi, donc Romains 1, 24 suivant, vous voyez là, vous avez deux paragraphes que je cite. D'abord, je cite un peu plus loin, Romains 1, 24 suivant, et ensuite, plus bas, au point C, je reviens au verset précédent. Romains 1, 21, 23. Donc d'abord 24. Parce que, pourquoi je cite ça d'abord? Parce que c'est la notion de convoitise qui vient ici et qui traverse évidemment l'Épître aux Romains qu'on retrouve aussi au chapitre 7. Tu ne convoiteras pas. C'est pourquoi Dieu les a livrés par les convoitises de leur cœur. Donc, la convoitise du cœur devient le lieu d'une expérience, pourrait-on dire, de décréation. De décréation, c'est ça qui nous est décrit ensuite. Description du retournement de l'expérience éthique. D'abord, la transformation du rapport au corps, c'est les versets 25, etc., qui décrivent ça, à partir de la convoitise du cœur. Ensuite, la transformation des relations humaines, sont pervertis, c'est là où vient d'ailleurs l'homosexualité, à cet endroit-là. Alors, est-ce qu'on peut réduire l'homosexualité à ce qui est dit ici? Certainement pas, mais au moins c'est là où elle apparaît. Et finalement, la pointe de ce passage, c'est l'autodestruction de l'homme, ou la décréation, à travers le retournement de l'expérience éthique. C'est ça que Paul appelle la colère de Dieu, sans doute à la suite d'Isaïe 64, 26, c'est-à-dire Dieu laisse l'humanité à ce qu'elle est en train de produire avec elle-même, cette inversion. Et c'est ça l'expérience de la colère de Dieu. Dieu les a livrés simplement à la cohérence interne de la création, c'est-à-dire à ce jeu d'action et d'effet. Voilà. Si on se laisse emporter par la convoitise du cœur, voilà ce que cela produit, une autodestruction. Donc ce qui veut dire, face à l'intérieur du négatif, vous avez cette formule magnifique, n'est-ce pas, le péché, tout de suite au début, hein, c'est tenir captif la vérité dans l'injustice. Voilà. Donc ça, c'est tout à fait, je dirais, au début, au verset 21, 22, 23, contre 24, pardon, qu'on trouve cette formule de Paul. Voilà l'inversion. Ça ne veut pas dire que la vérité disparaît, mais elle est tenue captive par l'injustice. Et du coup, on découvre, ce sont les points maintenant qui vont venir, jusqu'à et, le versant proprement théologal du péché. Vous voyez ce que je mets dans le point et, la transgression éthique des commandements de la deuxième table est pour l'Écriture la conséquence de la transgression du premier commandement. C'est ça l'enjeu central. Et du coup, on sort d'une moralisation du péché. Le péché n'est pas uniquement la transgression de tel ou tel point de loi. Bien sûr, c'est le péché. Mais la gravité du péché vient de l'inversion proprement théologale. Alors, je mets ça un tout peu ici en musique. La connaissance de Dieu est l'origine et la destinée de l'homme. Je cite Éphésiens 17, où vous l'avez de manière la plus claire, mais aussi chez Paul, évidemment. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent le vrai Dieu. En termes image, l'homme créé à l'image de Dieu, voilà, c'est ça son statut paradisiaque. L'homme relié radicalement à son origine. La création implique certes une distance de l'homme à l'égard de Dieu, l'homme n'étant pas Dieu, mais une distance intérieure à une affinité originaire. Je vais terminer là-dessus la dernière fois. Vous voyez, c'est ça le terme, finalement l'expérience fondamentale. Toute l'histoire spirituelle du christianisme à partir de Paul et de Jean est bâtie là-dessus. Cette affinité originaire de l'être humain avec Dieu. S'il y a dialogue possible entre l'homme et son Dieu, et donc paradis, au sens imaginaire du terme, c'est que l'homme en son être profond est, selon la Bible, strictement inséparable du mystère de Dieu. Le péché est donc, si on considère cela, et vous voyez, c'est pour ça qu'on a redécouvert ça depuis Vatican II dans notre pratique pénitentielle, c'est-à-dire de réactiver d'abord cette affinité originaire. Et c'est à partir de cela que se découvre la gravité du péché. Le péché est donc en dernière instance, non pas d'abord la transgression du commandement « Tu ne convoiteras pas », mais avant tout, ce qui conditionne d'une certaine manière la convoitise, avant tout le retournement de la relation interne et constitutive de l'homme à Dieu. Et c'est d'ailleurs par cela que Paul commence, dans Romains 1, 21, 23, « Connaissons Dieu, dit-il, ils ne lui ont rendu ni gloire, ni l'action de grâce qui reviennent à Dieu. Au contraire, ils se sont fourvoyés dans leurs vains raisonnements et leur cœur insensé est devenu la proie des ténèbres. Se prétendant sages, ils sont devenus fous. Ils ont troqué la gloire de Dieu incorruptible contre des images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles, et on a évidemment ici l'analyse de l'idolâtrie. La conséquence est, mais ça n'apparaît pas encore dans les chapitres 1 à 3, la conséquence est la mort de l'homme. Parce que le mystère divin est nié. On pourrait le traduire aujourd'hui, c'est-à-dire cet mystère divin de l'homme, son indétermination native, son ouverture radicale, si vous voulez, c'est le minimum, son ouverture radicale est niée plus ou moins subtilement. Alors c'est dans le chapitre 5, où intervient d'abord la typologie, Adam, Christ, et c'est là où intervient aussi la question de la mort. Donc ça, c'est au fond les deux nouveautés, c'est-à-dire la gravité, c'est pas uniquement de l'ordre individuel ou au pluriel, ils l'ont connu, mais ils ne l'ont pas honoré, mais c'est plus radical. Universalisation, donc apparaît ici la structure, dont j'ai parlé la dernière fois, et péché et mort sont ici reliés. C'est dans le chapitre 5. Le péché étant la négation ou le retournement du rapport à l'origine, je viens de le dire, ce qui devint en l'homme continue pourtant à subsister. Le germe divin est toujours là, qu'il soit reconnu ou non. L'homme adore sa propre image, ayant perdu son mystère et son indétermination native, et, voilà le point essentiel, et le fait avec force divine. Et le fait avec force divine. Alors, est-ce qu'il le fait toujours consciemment? Vous voyez, ça c'est déjà la deuxième question. Est-ce qu'il a des circonstances atténuantes? Mais la gravité du péché, c'est là, à cet endroit-là. Ses forces en lui se retournent en quelque sorte contre l'homme lui-même, et c'est précisément là, cela que Paul appelle colère de Dieu. Colère de Dieu. Alors vient maintenant, si vous voulez, le passage décisif, sorte de mais, cette universalisation et cette radicalisation ne sont possibles et perceptibles parce que la véritable figure, l'image parfaite de Dieu qu'est le Christ, est apparue. Voyez, l'homme peut vivre tout ce que je viens de dire à propos du chapitre 3 et du chapitre 5 d'une manière totalement inconsciente ou éprouver uniquement cette expérience, je dirais furtivement, de la division. Chapitre 7, je ne fais pas ce que je veux et ce que je fais, je le hais. Mais c'est-à-dire, il peut entrer dans une expérience de révélation du péché et de la gravité du péché en découvrant la figure même, j'ai dit, du Christ. Si déjà, d'autant plus, je vous ai expliqué la dernière fois cette conclusion Calva Homer, c'est-à-dire la surabondance qui apparaît dans le Christ et qui fait qu'il faut renverser les choses, c'est-à-dire que le négatif ne paraît pas en premier, mais le négatif paraît arrière-plan du radicalement positif qu'est la révélation du Christ. Donc ici réapparaît la démarche généalogique, je viens de le dire, et finalement Paul commence par le positif, cette magnifique formule au point de départ, « Je n'ai pas honte de l'Évangile, il est puissance, dynamis de Dieu pour quiconque croit ». Et l'avenir, voyez, avant qu'on ait le chapitre 5, on a déjà le chapitre 4 prophétique sur la figure d'Abraham. Et ensuite, le positif vient évidemment dans le chapitre 6, c'est le chapitre baptismal sur le baptême. Donc la gratia Christi est ici grâce baptismale. Alors, on va arriver un peu à la Genèse, parce que l'Épître aux Romains nous donne à relire et à comprendre la Genèse, et nous faire découvrir finalement que dans la Genèse, nous avons déjà, je dirais, cette fragilisation extraordinaire de l'éthique, oui, et le passage vers la racine théologale du péché. Alors là encore, je l'ai déjà dit quand on a parlé du modèle généalogique la dernière fois, le point de départ de la Genèse est strictement expérimental et historique, c'est-à-dire on entre dans l'histoire, pourrait-on dire, avec les chapitres 4 à 11, donc l'histoire des générations. Et on a ensuite ici trois étapes de décréation. Première étape, le fratricide de Caïn, donc la violence relationnelle. Ensuite vient la tentative divine, le regret de Dieu, c'est-à-dire le vouloir d'anéantir la création, le déluge, avec une nouvelle alliance, et finalement la violence politique, la tour de Babel. Mais la transgression de la racine de la transgression éthique est à nouveau strictement théologale. Et c'est là encore où, comme tout à l'heure, comme il y a quelques instants, Saint Jean, Jean 4, nous clarifie les choses magnifiquement. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. En effet, celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et voici le commandement que nous tenons de lui, celui qui aime Dieu, qu'il aime aussi son frère. Et on a évidemment dans le chapitre 3 de cette lettre l'allusion à la première épisode historique. Non, comme Caïn, étant du mauvais, il égorgea son frère. D'où donc la nécessité, si vous voulez, non pas uniquement de Genèse 1, pour comprendre. Donc là, on entre de nouveau, si vous voulez, dans le sondage de la gravité, je dirais, du péché, à partir de l'historique, mais aussi les chapitres 2 à 3, qui précèdent 4 à 11. Donc le récit parabolique de la chute, et qui est entièrement construit en fonction du rapport à Dieu. C'est ça la clé. Donc la clé théologale ici. Donc c'est pas Jean a bien vu, mais évidemment il a bien vu. Mais c'est le texte lui-même qui nous le montre. Alors le récit, vous serez comme des dieux. Genèse 3, 5. Vous serez comme des dieux. Voilà la suggestion du reptile, du serpent. Alors, est-ce que le désir de devenir comme Dieu est condamnable en soi? Non. Non. Je crois que c'est là où il faut vraiment bien lire. Vous êtes des dieux. C'est le psaume que l'évangile de Jean cite dans le discours de Jean 10. Parce que il se prétend fils de Dieu. Et Jean explicite ici, Jésus citant le psaume 82, n'avez-vous pas bien lu, etc. Le psaume dit, vous serez des dieux, vous êtes des dieux. Mais ce qui est condamnable, voilà, il me semble, c'est ceci, l'interprétation proposée, que dans l'acte d'imiter Dieu, qui est une formule paulinienne, n'est plus respecté ce qui est radicalement inimitable en Dieu. Son unicité. À lui. Et du coup, vous voyez, si ce mystère de l'unicité radicale de Dieu n'est pas respecté, le péché, et qu'est-ce que c'est le fratricide ? C'est de ne pas respecter l'unicité d'autrui. Car ce mystère absolu fait ressortir en l'homme. Voyez, les deux sont inséparables, je le disais tout à l'heure. Connivence d'origine entre l'être humain et Dieu. Inséparable. Car ce mystère absolu fait ressortir en l'homme ce qui est radicalement inévitable en lui, son unicité. C'est la condition de toute relation vraie, d'abord avec l'unique qu'est Dieu. Donc le péché, ici le fratricide et tout ce qui suit, est donc de nouveau perçu ici, évidemment comme une perversion éthique, c'est la perversion éthique par excellence, mais cette perversion ne devient possible finalement que parce que l'homme a d'abord, ou en même temps, oublié d'une certaine manière, ou perverti son rapport à l'origine. C'est en tout cas l'orientation fondamentale du texte. Alors, je termine rapidement donc ce premier sondage, si vous voulez, de comprendre un peu de l'intérieur la gravité, le poids terrible du péché, en revenant donc maintenant de la Genèse de nouveau à l'Épître aux Romains. Donc finalement, la révélation christologique du péché. La révélation christologique du péché. Et qui montre que le péché n'est pas uniquement une transgression, même s'il est aussi cela. Parce que Christ est venu, il devient possible de mesurer la radicalité de la décréation. J'aime bien utiliser une sorte de métaphore ici, aussi en catéchèse, quand il m'arrive de faire de la catéchèse. Vous voyez, vous pouvez regarder, vous découvrez la radicalité du précipice quand vous êtes sorti du précipice et vous vous retournez. Et donc vous voyez à quoi vous avez échappé. Sauvé de quoi ? À quoi ai-je échappé ? Voilà, finalement. Donc c'est le regard. Et au fond, je dis, l'Épître aux Romains nous propose ça, c'est-à-dire en étant déjà échappé, en ayant déjà échappé, on regarde la profondeur du l'abîme, je dis, du péché. Depuis la venue du Christ, que tout en étant nécessaire, je résume, la loi est impuissante, radicalement impuissante, face aux fragilités de l'être humain. Le « tu dois » peut tuer. Il faut qu'il y ait un « tu dois » ou « tu ne dois pas », évidemment pour sauver parfois. Mais ce n'est pas ça qui conduit nécessairement vers le bien. Il fallait donc une toute autre initiative, appelée révélation par Paul de la part de Dieu, pour atteindre la corporéité de l'être humain, ses membres, là où se niche chez nous la convoitise. Une nouvelle image à imiter pour rejoindre l'imitable en chacun, l'être fils et de fille de Dieu. Alors, voyez, le schéma apocalyptique, ici, n'est pas premier, donc le chapitre 5, il n'est pas premier, mais il est nécessaire d'une certaine manière, à cause de cette conclusion calva-homère, c'est-à-dire pour dire la surabondance, pour dire que la grâce est première. L'expérience qui conduit à une inversion, je termine par là, de l'ordre du premier et du second récit de la création. La création de l'homme à l'image et à la ressemblance devient eschatologique, à savoir la conformité à l'image du Fils, eschatologique en ce sens-là. En participant au gémissement de toute la création, rassemblée dans le gémissement de l'Esprit, l'homme accède à cette conformité à l'image du Christ. Et vous voyez, c'est là où, au chapitre 8, arrive la question de la théodicée, évidemment. Voilà. Donc ça, c'est, si vous voulez, le premier point. Alors maintenant, le deuxième niveau. Donc la question de la responsabilité. Qui est une question bien à distinguer de la première. C'est-à-dire, sonder la gravité n'est pas responsabiliser et tuer dans sa responsabilité l'être humain. Alors du coup, si vous voulez, je dirais, il faut entendre deux choses ici. Il y a d'abord les inexcusables de l'Épître aux Romains, chapitre 1, verset 20. Et du coup apparaît la question, est-ce que l'humanité est vraiment inexcusable? Comprendre la disproportion surprenante entre la responsabilité éthique des sujets humains, d'un côté, et leur fragilité. Et voyez, c'est à cette deuxième question aussi que Paul répond. Ce n'est pas moi, j'ai été séduit, le péché qui habite en moi. Vous voyez toutes ces formules paradoxales qu'on trouve chez lui. C'est moi, c'est pas moi. C'est magnifique d'une certaine manière. Parce que à la fois vous avez toutes les rationalisations qui se grèvent ici, là-dessus. Ah, c'était pas moi. Vous voyez, on connaît bien ces réflexes, chacun. Et en même temps, c'est quelque chose de très réaliste, parce que c'est vrai, c'était moi et ce n'était pas moi. Et donc, le problème de la séductibilité de l'être humain. Donc, la difficulté, finalement, à déterminer la limite de l'éthique et à comprendre le drame humain. Le drame humain. Alors, Genèse et l'Épître aux Romains se sont confrontés à cette question décisive. Alors d'abord, le premier principe, il déculpabilise Dieu. Donc il n'y a pas de défaut de fabrication. Bon, on peut discuter ça, évidemment, je veux dire, la philosophie n'a cessé de discuter de ça. Vous voyez, le gnosticisme, c'est une solution, le manichéisme est une solution à ce problème qu'on ne va pas discuter maintenant, mais dire c'est de la faute à Dieu, c'est abandonner l'hypothèse Dieu, finalement. Donc c'est là, il y a une sorte de frontière tout à fait décisive. Dieu n'est que bonté, évangile. Alors du coup, on reste évidemment avec la question. Parce que le fait ici, de nouveau, il faut partir des faits de nos expériences, c'est la séductibilité de l'homme et, je veux dire, ce double sentiment paradoxal d'être à la fois responsable et influençable. Et c'est là où l'Écriture fait intervenir le serpent. Et je vous ai mis ici toute la terminologie dans sa complexité, qui vous montre bien, je dirais, toutes les hésitations aussi, du plus imaginé au plus abstrait, l'ennemi du genre humain, le menteur depuis le début, l'accusateur depuis le commencement, donc on peut penser ici au procès devant Dieu entre Job, entre le diable et Dieu, dans le livre de Job. Vous voyez, c'est le symbole, comme dirait Kant, du mal radical, et finalement, on pourrait dire, c'est la négation absolue du théologal en l'homme. Alors surtout, ne personnalisons pas le diable, évidemment, c'est le dépersonnalisant par excellence. Je suis légion. Le dépersonnalisant par excellence, voilà. La négation du germe divin est sous forme de personnalisation, rappelez-vous, Gaudium et Spes, et de socialisation, les deux à la fois. La négation de ça. Et jamais définitivement implanté, c'est pas un naturel, c'est pour ça qu'on a pu dire surnaturel, jamais définitivement implanté en l'homme, puisqu'il reste soumis au temps et à des possibles retours. Mais c'est là où va intervenir maintenant, à ce second niveau, c'est-à-dire par rapport à la question excusable ou non, inexcusable et circonstances atténuantes. Voilà la formule que je propose. C'est là où va arriver la théorie du péché originel. Originaux et originés. Même l'existence du séducteur ou du tentateur n'explique pas encore ou ne fait pas encore comprendre le fait que l'homme soit influençable, séductible. À ce niveau intervient donc la théorie du péché originel, mais évidemment purifiée de sa linéarité et donc purifiée aussi, je dirais, de cette notion de causalité que j'ai déployé la dernière fois. De fait, commençons toujours par l'observation. De fait, la liberté humaine paraît comme influençable, comme radicalement faillible. radicalement faillible. Même le Saint-Père ne perd pas sa faillibilité comme être humain. Faillible. Voilà. L'infaillibilité est d'un autre ordre. Voilà. Mais voilà, pas nécessairement, mais originellement. Pas nécessairement. Parce que si nous disons nécessairement, alors voilà, on est du côté de Dieu, de la création. Originellement. Alors, comment comprendre cet originellement? Alors, Saint Anselme, c'est pour ça que je vous en ai parlé, c'est sans doute le premier qui a mis le doigt dessus. Il propose l'intelligence de ce mystère. La liberté humaine a des effets imprévisibles. Elle s'inscrit dans l'histoire et dans la culture. Et quand le sujet naît, il est déjà marqué par toutes les libertés antérieures de l'humanité, et ce qu'elles ont produit individuellement et collectivement. Il n'y a pas de liberté abstraite. Alors évidemment, vous pouvez rentrer ici dans une sorte de causalité infinie, indéfinie, disons plutôt ça, vous n'en sortez pas. Ça c'est, je veux dire, vous faites d'Adam une substance première, voilà. Vous l'accusez. Et non, c'est un fait, voilà. Les textes de l'Église traduisent fréquemment péché originel par péché de structure. Précisément pour indiquer cet état de fait culturel et historique. Il s'agit de, voilà la formulation que je vous propose, de quelque chose qui colle en quelque sorte à notre liberté, qui ne la détruit pas, mais qui la marque de façon décisive. Marque qui est repérable dans les préjugés d'une culture, ses réflexes les plus profonds par rapport à l'autre, par rapport à l'étranger, etc., etc., etc. La liberté absolue n'existe pas. Et donc, d'une certaine manière, nous sommes à la fois libres et en même temps, d'emblée, quand nous naissons, marqués jusque dans notre peau, par ce qu'est devenu une culture donnée. Une culture donnée. Et une culture pure n'existe évidemment pas. La même chose peut être dite de la grâce, évidemment, positivement, ou de l'histoire baptismale qui s'inscrit dans l'histoire des hommes en proposant dans telle culture la figure du Christ, figure qui séduit, voyez, une séduction positive, une séduction positive qui séduit ceux et celles qui désirent se conformer à son image et qui sont travaillés de l'intérieur par sa grâce. Alors, il faut maintenir évidemment la diversité des théories. Ce n'est que des théories pour faire comprendre, je dirais, quelque chose. C'est leur enjeu qui est radicalement mystérieux. Sans compromettre la visée, quelle est la visée? Je résume encore une fois, rapidement. Le lien intime de l'éthique et du théologal. Il n'y a pas d'un côté l'éthique et de l'autre côté le théologal. Les deux commandements sont intimement liés. Intimement liés. Le double commandement. Et on les dit, n'est-ce pas, de manière très simple, parfois, on les répète, etc. On les réduit parfois le premier au second. Feuerbach, par exemple, vous rappelez, quand on a lu ce texte, au mois de septembre, où il fait ça, exactement. Mais je dis, on voit bien que le lien est dramatique entre les deux. Dramatique, non pas dramatisé, dramatique. Il faut maintenir les deux perspectives ensemble. Une éthique de la responsabilité de l'homme devant Dieu, mais cette responsabilité dépasse l'homme radicalement, en même temps. Il est donc inexcusable selon la première perspective, c'est la première formule de Paul, et bénéficie toujours de circonstances atténuantes selon la deuxième perspective. Il est un être historiquement culturé, marqué par sa propre histoire familiale, sociale, culturelle et politique. Et pour expliquer ces circonstances atténuantes, il devient difficile de remonter évidemment maintenant à une causalité adamique, je l'ai dit à plusieurs reprises. Il faut tenir cependant, et il me semble que c'est réaliste, à une responsabilité collective, c'est-à-dire faite de multiples responsabilités historiques qui sont inscrites dans une culture donnée, qui dépasse radicalement la responsabilité purement individuelle d'un tel, d'une telle. Et on pourrait donner ici des multiples exemples. C'est précisément à cet endroit-là qu'un Moltmann parle des cercles vicieux au sein de nos sociétés. Alors, dernière question. La question de la conséquence du péché et par le péché, la mort. Et je vais essayer de donner déjà une réponse provisoire, mais j'y reviendrai après Noël dans le chapitre 3. On va y revenir une deuxième fois. Alors, il faut d'abord dire que vous comprenez le terme culture holistique, c'est-à-dire c'est une culture holos, ça vient de tout, où tout est intégré, une culture non différenciée, fondamentalement religieuse. Et dans ces cultures holistiques, comme celle de l'écriture, on ne sait pas encore distinguer le biologique et le spirituel. Le biologique et le spirituel. La décréation provoquée par le péché et la perversion éthique ont donc pour conséquence la mort. Non pas seulement spirituelle, mais aussi biologique. On ne distingue pas réellement. On a des distinctions dans l'Apocalypse qui parle de la première et de la seconde mort. C'est peut-être le seul endroit où c'est aussi précis. Voilà. Alors aujourd'hui, quand on relit ces textes, nous les relisons, évidemment, il faut d'abord le reconnaître, dans des sociétés différenciées. Et nous ne pouvons plus tenir une position qui englobe immédiatement l'éthique et le spirituel d'un côté et le biologique de l'autre. C'est plus possible, ça. Mais, vous voyez, faut-il pour cela séparer les deux dimensions et arriver, par exemple, quand on l'a lu sous la plume de certains théologiens dans les années 50, 60, 70, mais je dirais, dans le paradis, tout le monde était mortel. Mais c'est fondamentaliste aussi. C'est pas approcher, réellement traiter le problème. Il faut distinguer le spirituel et l'éthique, bien sûr, mais comme des dimensions au sein de la corporéité humaine. Et je pense que si on fait cela, il y a un gain énorme, un gain énorme. Ça permet au moins, je dirais, de clarifier un débat qui, au fond, depuis la grande théologie franciscaine, Bonaventure, etc., Dun Scott, traverse la chrétienté occidentale entre les augustiniens d'un côté et les scotistes de l'autre côté. Vous voyez, dans la tradition franciscaine, et plus tard aussi dans la tradition ignatienne, on a discuté la question des motifs de l'incarnation. Et Dun Scott, dans la tradition franciscaine, arrive jusqu'à dire « Le Christ serait venu même si l'homme n'avait pas péché ». Ah, ça c'est quand même intéressant de dire ça. Voyez, sauver de quoi? Sauver du péché, oui, mais de la mort. Et donc, voyez, ici la question, c'est pas uniquement le péché, mais c'est plus radicalement la contingence de l'être humain. Sa mortalité qui est en jeu. Pour guérir, voilà la formule que je propose, il est venu pour guérir et consoler l'homme, au sens le plus fort du terme, dans sa traversée de la contingence. Bien sûr, la différence entre le créateur et la créature implique, vous voyez, je reviens à ma formule de page précédente, la page 87 sur le paradis, c'est-à-dire une distance, il y a certes distance de l'homme à l'égard de Dieu, mais une distance intérieure à une affinité originaire. Il y a distance, bien sûr, mortalité et mortalité biologique. Et la vie éternelle peut être défini avec saint Jean comme connaissance de Dieu, comme relation et dialogue avec lui, comme entrée dans l'intimité de Dieu, comme j'aime bien dire. Alors, la question vient quand même, les expériences de l'homme fini, ses souffrances, la dégradation, l'approche de la mort, l'handicap dont il a été question tout à l'heure. Ce sont des expériences qui dépassent radicalement les déformations qui introduisent le péché. Bien sûr, le péché colore ces expériences-là, mais on ne peut pas les réduire au péché. Comment peuvent-elles trouver justification ? Question de la théodicée. Sinon, par la rencontre du Christ, Fils de Dieu, qui réalise au milieu la sympathie absolue de Dieu pour sa créature, sa passion, etc., toute sa traversée. Donc, l'Épître aux Hébreux, ce qui est remarquable, c'est que c'est un texte, justement, qui a défini l'œuvre du Christ, non pas en fonction du péché. Ou disons, pas exclusivement en fonction du péché. Nous n'avons pas, en effet, un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Et vous avez, j'avance tout de suite vers le point numéro 3, la première définition de l'œuvre du Christ, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 2, il a réduit à l'impuissance celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et délivré ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une situation d'esclave. Donc, vous voyez, le problème, c'est pas la mort. Mais le problème, c'est d'être esclave de la mort. Et vous voyez, vous avez là la distinction. Le péché, c'est ça, d'être esclave de la mort. C'est pour ça qu'on peut magnifiquement comprendre la formule de saint François qui rajoute au cantique de la création cette dernière strophe quand il parle de la mort comme sa sœur. Voyez, comme messagère de l'heureuse finitude de l'être humain. Voyez, on est ici sur un autre registre. Libéré du péché et de la crainte de la mort. De la crainte de la mort. Et vous avez aussi cette formule extraordinaire qui m'a toujours enchanté, de Jean Damascène. Si Dieu, prévoyant l'existence du mal, s'était abstenu de créer, il eût reconnu que le mal était plus fort que lui, puisque ce mal aurait inhibé en Dieu même le désir de créer. Bon, voilà. Voyez, il n'y a pas d'unique argument, il n'y a pas de preuve, rien, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, vous acceptez l'hypothèse Dieu ou vous ne l'acceptez pas ? Voilà, face à ces questions radicales. Mais alors, une fois que vous y entrez avec tout votre être, et vous faites l'expérience du paradis qui est décrit ici. Voilà. Alors, à ce moment-là, je dis, une cohérence peut venir de plusieurs côtés, évidemment. De plusieurs côtés. En traversant donc ces trois niveaux de profondeur du péché, se dessine, je dirais, un mouvement de débordement vers le mystère de Dieu. Rien de moins, rien de plus. Alors, le problème, je dirais, avant la pause, rapidement, anthropologique des relations sociétaires, ça introduit la suite, les trois chapitres suivants. Voyez, donc, on va rester avec ce problème maintenant, du biologique et du spirituel. Donc, le passage de société holistique vers des sociétés modernes, contemporaines, postmodernes, différenciées. Et du coup, nous devenons subitement, avec toute l'exégèse d'ailleurs, sensibles au soubassement anthropologique, au sens moderne du terme, de nos écritures. Et nous lisons tout d'un coup vraiment la Genèse et l'Épître aux Romains comme une généalogie de la société humaine. L'éthique et le théologal sont d'emblée inscrites dans la généalogie de la société humaine. C'est comme ça qu'il faut lire ces textes maintenant, ce retour à l'origine. Et donc j'introduis les trois chapitres. Alors, regardons la Genèse. Qu'est-ce qui caractérise l'homme? A. Le dominé, la technique, la nomination des animaux et des choses. Dominé comme le berger, avec douceur. Le premier récit est végétarien. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Voilà. Multipliez-vous, fécondité. Et ensuite, alors, Genèse 1, 26, Dieu dit, alors faites attention au pluriel et au singulier, faisons l'homme à notre image. Donc c'est cette délibération divine que saint Ignace reprend, d'ailleurs je dis ça pour les Ignatiens, dans sa méditation sur l'incarnation. Selon notre ressemblance, et qu'il soumette les poissons de la mer, etc. Dieu, singulier, créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa, mâle et femelle, il les créa. Alors, image, on va poursuivre cela après la pause. À lire avec l'interdiction de l'image. Deutéronome 5, 8. L'homme créa l'image de celui dont il n'a pas le droit de se faire une image. Et vous avez là la fondation théologale du respect absolu devant autrui. Donc il ne s'agit pas uniquement de se faire une image, ne pas se faire une image de Dieu, mais ni de soi-même ni d'autrui. Et le pluriel et le singulier, donc vous avez la délibération divine et son exécution, homme et femme, homme-femme, rapportés à Dieu. Alors là, il y a une substitution magnifique, c'est-à-dire le roi comme image patriarcale de Dieu est remplacé ici par la relation homme-femme. Et cette relation, elle est fondamentale. Le reste suit, engendrement, fraternité, sororalité. Tout le récit de la Genèse vous fait visiter toutes les relations. Et on est loin de l'idéal qu'on veut nous faire parfois croire qu'il soit la règle absolue. Voilà. Alors, en racontant l'histoire dans une perspective éthique et théologale, donc en posant, je reprends tout ce qui a été avant, le problème de la responsabilité de l'homme, il est inexcusable, tout en bénéficiant de circonstances atténuantes, et avec le problème de la mort qui est présent, le texte biblique raconte et réfléchit à la genèse de la société humaine, ce qui rend le texte particulièrement attentif à la violence et à la décréation. C'est ça la question centrale dans la Genèse. Et pour nous aujourd'hui aussi. Alors, la théologie paulinienne. Voyez, là, il y a quelque chose de remarquable qui va se passer. Galates 3, 28. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus l'homme et la femme, car tous vous n'êtes qu'un en Jésus-Christ. Vous avez là trois tensions fondamentales. Au sein de toute la société, ni juif ni grec, ni esclave ni l'homme libre, ni homme et la femme. Voilà. Relativisation eschatologique très radicale. Donc le « et » le « ni ». Et voyez, au fond, le Nouveau Testament, peut-on dire en raccourci, nous propose ici un itinéraire qui va de la Genèse au Nouveau Testament concernant ces relations. D'abord, Genèse 11, 12. Qu'est-ce qui se passe en Genèse 11, 12? C'est la distinction non pas entre grec et juif, mais entre l'Égypte. Entre l'Égypte d'un côté déjà, ou païen, et l'élection d'Abraham. Et ensuite vient l'Exode, esclave ni homme libre. Alors le versant politique, qui commence d'ailleurs avec le récit de Joseph, le politique. Et ensuite seulement, vous voyez cette inversion, Genèse 1 à 3, ni homme ni il n'y a plus l'homme et la femme. Un itinéraire de conversion, vous voyez le modèle généalogique, qui s'inscrit dans la genèse de la société humaine. On voit du « et » vers un « ni-ni ». Et cette conversion commence par Genèse 11 à 12, juif païen, passe par l'Exode, libération de l'esclavage, et va vers Genèse 1, la relation homme-femme. Donc, une logique, pourrait-on dire, une généalogie qu'on va essayer de retrouver maintenant dans les chapitres, les trois chapitres suivants, parce qu'il s'agit d'inscrire la question du salut dans nos relations de société. Bien, on va faire la pause. Bien, on va recommencer tout de suite avec le chapitre 2. Je vous laisse dire la conclusion, c'est encore une fois une petite reprise, on n'en a pas besoin maintenant. Je reviendrai à la question de la mort et la question de Théodicée dans le chapitre 3, de toute façon. Alors on va poursuivre un peu ce qu'on vient de faire dans le dernier point du premier chapitre et réfléchir maintenant d'un point de vue proprement anthropologique, l'anthropologie proprement, l'anthropologie profane, à la genèse des sociétés humaines. Vous voyez, j'ai ajouté ici « au sein d'un environnement gravement menacé », comme cadre ouvert, et je préciserai ces termes, à une poétique du sens. Ça vient de « poiesis », vous voyez, de grec, c'est-à-dire une créativité qui se trouve dans nos sociétés et qui consiste à incarner un sens d'existence de manière plurielle. Alors, je vais développer d'abord une problématique et ensuite, on va réfléchir à la question de la violence qui est au cœur, finalement, du premier livre de la Bible, la Genèse, du deuxième aussi, bien sûr. Alors la problématique, il y a d'abord, si vous voulez, une thèse initiale, fondamentale, à laquelle on ne peut pas renoncer, je crois qu'il est quand même très largement, je veux dire, partagé par l'anthropologie, c'est-à-dire l'homme comme être radicalement indéterminé. Alors on peut l'observer, je dirais, de la manière suivante, c'est une première observation. La naissance biologique est nécessairement suivie d'une seconde naissance. On peut le dire de manière aussi simple que ça. L'entrée dans un monde, qu'est-ce que c'est cette seconde naissance où toutes les sociétés greffent, sur laquelle toutes les sociétés greffent le processus d'éducation, d'initiation, etc. L'entrée dans un monde commun de signification déjà existant. Nous ne sommes pas à l'origine de ces significations. Des rôles ou des statuts, père, mère, enfant, grands-parents, petits-enfants, frères, sœurs, oncles, tantes, etc. Énonçant ce que chacun peut attendre des autres comme partenaire d'une vie sociale. Et qui implique une éducation, finalement, une éducation à la capacité de donner sens à sa vie. Voilà, ça c'est le point de départ. Le sens n'est pas donné, pré-donné, mais voilà, l'appel à donner sens, mais ça suppose évidemment l'entrée dans un univers signifiant qui existe déjà. Alors, on peut se référer ici, si vous voulez, à Platon, du fait que l'homme parle, et justement parce qu'il parle, l'homme lui apparaissait comme l'animal qui refuse toute définition et qui échappe à toute définition. L'homme est toujours ailleurs. Il est impossible de le saisir. Et là, il faut corriger, il manque quelque chose. Définir l'homme, c'est vouloir le situer uniquement dans le monde des vivants, ce qui est une réduction. Évidemment, l'homme est un animal. Alors, voyez, aujourd'hui, vous avez tout un débat, je dirais, évidemment, entre les deux groupes de sciences. Les deux groupes de sciences, les sciences humaines d'un côté et les sciences cognitives, pour faire bref, je dirais, de l'autre côté, sur la notion de l'exception humaine. L'exception humaine, qu'est-ce que c'est finalement? Vous voyez, quand on dit l'exception humaine, on présuppose d'abord que l'homme fait évidemment partie de la biosphère, qu'il est un animal. Mais quand même un animal assez assez particulier et spécifique. Quelqu'un ici m'a indiqué, et je vous l'indique aussi, n'est-ce pas, le débat chez Gallimard, le numéro 180. Vous avez un certain nombre de textes assez remarquables. Définir l'homme, c'est le titre. Et donc, où vous trouvez ce débat, que je peux évidemment pas, c'est pas le rôle d'un cours d'anthropologie théologique, reprendre ici, mais je vais quand même vous donner quelques éléments. Alors, la tradition judéo-chrétienne a pu associer sans difficulté ce type d'anthropologie négative, voilà, je tiens beaucoup à ce terme, avec l'affirmation biblique que l'homme est créé à l'image de Dieu. Donc, voyez, je reviens à cette affinité fondamentale, l'inséparable Dieu et l'homme. L'inséparable Dieu et l'homme. Négatif, vous voyez, saint Thomas, de Dieu, on ne peut pas dire ce qu'il est, mais il est possible de dire ce qu'il n'est pas. La définition la plus simple de la théologie négative. De l'homme, on ne peut pas dire ce qu'il est, mais ce qu'il n'est pas. Et d'où l'interdiction que nous partageons avec le judaïsme de toute image, voilà, et qui vient de l'énigme de l'homme, voilà, associé à l'énigme de Dieu et inversement, ou comme je le traduisais déjà il y a quelques instants, Dieu comme garant de la mystérieuse unicité de tout être humain. Alors ça c'est le point de départ, la thèse si vous voulez. Après, on doit évidemment se demander comment ce caractère énigmatique de l'être humain, vous voyez, je ne parle pas ici de mystère tout de suite, se manifeste-t-il au fond dans l'anthropologie contemporaine? Et c'est là où on retrouve l'actuel débat entre les sciences cognitives d'un côté et l'anthropologie. Et donc le problème est le passage, le caractère insaisissable du passage de la nature à la culture. Voilà. La nature animale, voilà, à l'être humain. Alors on peut le dire de multiples manières. Avec, si vous voulez, je dirais évidemment toujours le risque du positivisme, c'est-à-dire qui annule d'une manière ou d'une autre le négatif, l'insaisissable, mais il y a aussi le biologisme. Vous voyez, une sorte de mythe qui est au fondement des sociétés modernes et que vous trouvez, par exemple, dans l'article 16 de la Déclaration universelle des Nations Unies, qu'on a beaucoup cité ces derniers temps. La famille est l'élément naturel. Aïe, 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 qu'est-ce qu'on dit quand on dit ça, hein? La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'État. Oui, 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 bien sûr. Mais voyez comment ici, il y a une petite confusion dans le vocabulaire. Alors, la méthode généalogique en anthropologie présuppose précisément le caractère insaisissable de ce passage. Alors, les mythes tentent évidemment de dire ce passage. Et en ce sens, évidemment, le récit de la Genèse est un mythe, évidemment. En ce sens-là, au meilleur sens du terme, voilà. Mais le passage reste énigmatique. Alors je vous ai donné un autre texte absolument remarquable qui date déjà, bien sûr, qu'on peut discuter sur beaucoup de points, mais dont la structure argumentative, à mon avis, reste tout à fait actuelle. 67, les structures élémentaires de la parenté, un très grand texte, même si, bon, Lévi-Strauss a beaucoup discuté aujourd'hui. Nous avons été emmenés à poser le problème de l'inceste à propos de la relation entre l'existence biologique et l'existence sociale de l'homme. Et nous avons constaté aussitôt que la prohibition ne relève exactement ni de l'une ni de l'autre. Nous nous proposons dans ce travail de fournir la solution de cette anomalie en montrant que la prohibition de l'inceste constitue précisément le lien qui les unit. Qui les unit l'une à l'autre. Voilà, l'existence biologique et l'existence sociale. En effet, c'est moins une union qu'une transformation ou un passage. Un passage, une transformation, un passage. Avant elle, la culture n'est pas encore donnée. Avec elle, la nature cesse d'exister. La nature, avec un grand N ici, cesse d'exister chez l'homme comme un règne souverain. La prohibition de l'inceste est le processus par lequel la nature se dépasse elle-même. Par lequel la nature se dépasse elle-même. Donc vous voyez, on n'est pas du tout sorti ici d'une approche profane, immanentiste d'une certaine manière. Il n'y a rien de théologique ici, de ce point de vue-là. Mais c'est l'autodépassement. Rahner dirait dans le traité fondamental l'autotranscendance, c'est le terme, n'est-ce pas, chez lui. C'est une transcendance immanente. La nature se dépasse elle-même et le point de passage, c'est la loi d'inceste. Alors on peut contester ça aujourd'hui, peu importe. Mais le point important ici, c'est quand même l'idée de loi. Et c'est là où il y a d'ailleurs la jonction avec la tradition juive et biblique. Lévi-Strauss, ce n'est pas étonnant, hein, comme chez Freud aussi, évidemment. Voilà. Donc la loi, sous la forme de l'interdiction de l'inceste ici, et qui régule le jeu du désir et constitue l'émergence de l'anthroposphère et donc de l'altérité. Alors, contre le risque, j'ai dit, j'ai fait intervenir ici encore un autre auteur, peut-être plus actuel, d'une certaine manière, qui est beaucoup cité aussi, c'est Louis Dumont, qui s'est beaucoup intéressé à la culture indo-européenne, à l'Inde. Donc l'homo hierarchicus, c'est sur le système des castes, et essai sur l'individualisme, une perspective anthropologique sur l'idéologie moderne. Alors, ce qu'on trouve ici, si vous voulez, chez lui, c'est l'idée de différenciation. Donc c'est lui qui a forgé ce terme holisme, des sociétés holistiques d'un côté, j'ai déjà utilisé ce vocabulaire, à la différenciation interne. Par exemple, entre le biologique et le spirituel. La tradition judéo-chrétienne n'avait pas de difficulté à associer la philosophie grecque et l'écriture. Et l'écriture. Pourquoi ? Parce que, chez Platon, je viens de le dire, avec la thèse, on peut parfaitement, avec Platon, comprendre le caractère totalement indéterminable, ultimement, de l'être humain. Et donc, le passage de l'énigme de l'humain au mystère théologique, c'est ce que fait la théologie chrétienne, se faisait alors vis-à-vis de, via la distinction entre corps et âme. Corps et âme. Le corps étant la partie animale, l'âme ou l'esprit désignant ce qui est radicalement indéterminable en l'homme. Voyez. L'esprit souffle où il veut, vous voyez. Cette ultime déprise qui est indiquée ici. Nous ne disposons plus, voyez dans l'introduction, j'ai longuement développé ce point, nous ne disposons plus d'une telle ontologie de la substance, d'une anthropologie du corps et de l'âme. pour interpréter nos Écritures. Le statut énigmatique de l'être humain s'exprime dans le passage insaisissable vers la culture comme monde de signification. C'est ça, voyez, la pointe, le déplacement. Donc, si nous n'avons plus à notre disposition la distinction entre corps et l'âme, nous pouvons greffer notre lecture et notre de l'Écriture et notre anthropologie théologique sur ce passage de nature à la culture, l'autodépassement, si vous voulez. Et donc, à l'endroit où se situe la loi, ce qui nous oblige à penser l'articulation entre culture et foi théologale au sein même, voilà, je souligne ça, des relations entre corps signifiants. Des relations entre corps signifiants. Le jeu de relations entre corps signifiants. Comme lieu où s'inscrit la foi théologale. Alors, j'explicite ça, si vous voulez, je dirais dans le point suivant. Donc, au point de départ, donc c'est une sorte de résumé, il y a la distinction fondamentale entre nature et culture, parfaitement la continuité et la distinction. Voilà. La nature se dépassant elle-même, le biologique se dépassant en l'être humain lui-même. Donc, Gaudium et Spes le dit nettement. Avec l'apparition d'une pluralité de cultures ou de mondes de signification fondés sur quelque chose, pourrait-on dire, comme la loi de l'interdiction de l'inceste. Vous voyez, je suis très prudent, mais on ne peut pas renoncer à quelque chose qui est de l'ordre de l'altérité. Une émergence, c'est ça que désigne finalement la loi au singulier, que ce soit la loi d'inceste ou d'autres choses semblables qui désignent une nécessaire altérité au sein d'une pluralité de significations. Alors, l'anthroposphère, donc le passage insaisissable à la culture, implique trois types de rapports, et qui sont précisément, c'est là où il y a la jonction, parfaitement honorée par la Genèse. Le rapport des hommes à la nature. Alors, dans la Genèse, c'est le dominé. Dans la culture contemporaine, c'est la notion de travail, la technique, la sphère économique. Et la nature, entre guillemets, maintenant, entre dans l'échange humain et pose évidemment le problème crucial à l'heure actuelle de l'environnement et met en question le dominé. Quel type de dominé? Alors ensuite, la relation homme-femme et la sexualité humaine. Dans la Genèse, en toute première place, avec la fécondité, le multipliez-vous, je dis bien avec, à la limite de la nature et de la culture, avec l'émergence des relations parentales, fraternelles, toutes les structures de parenté dans leur extrême complexité. Ensuite, les relations collectives des hommes entre eux, la tour de Babel, le problème des langues, vous voyez, ça vient très très tôt dans la Genèse, et la naissance de la sphère proprement politique avec le récit de Joseph, le long récit de Joseph, la finale de la Genèse, connectée avec l'Exode, problème de l'esclavage, etc. Ces trois sphères articulent nature et culture dans la corporéité humaine. Alors, l'énigme de la violence qui s'inscrit, ça c'est le troisième niveau, donc le passage de la nature à la culture, qui s'exprime à travers ces différents types de relations, Et finalement, l'énigme de la violence qui traverse les trois sphères au type de relations significatives. Alors, je vous donne ici quelques auteurs d'abord. Hobbes est sans doute le premier, le tout premier, qui s'est attaqué à ce problème. Ensuite, Hegel, on va le retrouver dans quelques instants. Marx, évidemment, avec des réflexions de fond sur la violence. Et on a évidemment des thèses qui vont jusqu'à dire au commencement était la violence, ce qui est radicalement contesté par la tradition biblique. Alors apparaissent ici ce qu'on appelle les célèbres dialectiques. Et mon deuxième point, tout à l'heure, à la page 95, va vous présenter une version, et vous avez d'ailleurs dans le dossier, à la fin, un texte qui l'explicite. Les dialectiques. Alors, vous voyez, on retrouve ici quelque chose de Galates 3. La dialectique, les dialectiques du maître et de l'esclave. Alors, ça, c'est notamment chez Hegel et chez Marx. La violence est à la racine de la sphère politique. Ça vient de Hobbes. L'homme est un loup pour l'homme. Et alors, on introduit, et ça, c'est chez Hegel, la dialectique de l'homme et de la femme, Galates, qui est toujours derrière, la violence au sein des relations parentales et familiales, qui ne sont pas évidemment protégées contre le phénomène de la violence. Et alors, le dernier qui a repris ça, et que je vais vous exposer, c'est Gaston Fessard, qui est un travail absolument remarquable, que vous trouvez dans l'actualité de l'actualité historique, 1960, et qui se réfère explicitement à Galates 3, et pour cette raison-là, il ajoute une troisième dialectique, celle du juif et du païen. Et évidemment, on peut le comprendre après l'histoire du nazisme d'Auschwitz en 1960, et c'est de grande actualité, évidemment, aujourd'hui, qu'on introduise aussi cette troisième dialectique du peuple élu et des païens. Alors, ça a été repris ici dans la maison par un des enseignants de la philosophie, Abel Janière, et je vous ai donné le grand texte dans le dictionnaire du spiritualité du Père Pousset, que vous trouvez dans l'annexe. On ne va pas le regarder maintenant, vous pourrez le lire, il est très bien, très facile à comprendre. Mais j'exposerai ça dans le point 2. Alors, il faut tout de suite dire, c'est déjà une petite remarque critique par rapport à ce type d'approche qui reste nécessaire. Il y a une complexification actuelle de ces dialectiques, des trois, en raison de la violence humaine à l'endroit de l'environnement naturel, dans la sphère de la technique et la sphère de l'économie, pourrait-on dire d'abord, donc avec la question de l'épuisement des énergies fossiles, le désastre écologique, il faut ajouter la démographie galopante sur notre petit globe, et donc il n'y a pas uniquement une question évidemment de la sphère technique, travail économique, mais il y a des questions culturelles extrêmement profondes qui se greffent là-dessus et qui introduisent, si vous voulez, un autre type de violence à laquelle on a été paradoxalement complètement aveugle jusque dans les années 74. Vatican II n'en parle pas. Donc, vous voyez ce que c'est, ce sont les préjugés historiques. Et nous, on en a d'autres, évidemment, que des générations après nous vont sans doute révéler. Alors, j'arrive, si vous voulez, à un point essentiel maintenant. Si vous voulez, ça, là, on est aussi au niveau d'une anthropologie, sciences humaines et philosophiques. J'appelle ça un cadre ouvert. Ce point est très important, à une poétique de sens. Il est impossible de passer immédiatement d'une analyse des deux, trois dialectiques avec le problème environnemental, au plan proprement théologique, c'est-à-dire l'idée de l'homme créé à l'image et la ressemblance de Dieu. Pourquoi ? Et c'est là, si vous voulez, où intervient le travail de Dumont, le passage d'une société holiste vers des sociétés différenciées, qui nécessite la reconnaissance que les trois niveaux de la genèse d'une société humaine ne forment qu'un cadre structurel qui laisse ouvert le caractère énigmatique de l'être humain en relation et sans cesse menacé et traversé par la violence. Le cadre offre la possibilité d'une pluralité de sens possible. Voyez, c'est là où on sort du positivisme. Les sciences humaines ne peuvent pas imposer un sens. On est dans un pluriel. Et comme jamais avant, retentit dans nos sociétés l'appel à donner sens à l'existence individuelle et collective. En plus de savoir d'un point de vue anthropologique, même sur le plan cognitif, ne résout pas ce problème, nous prive pas de la nécessité de donner individuellement et politiquement sens à l'aventure humaine. Et voyez, intervient ici nécessairement, et ce qui est un peu le soubassement des débats qu'on a eu les deux dernières années dans la société française, mais aussi dans d'autres sociétés, aux États-Unis, au Canada, etc., intervient nécessairement ici une réflexion fondamentale sur les sociétés démocratiques et pluralistes que sont les nôtres. Donc un petit excursus pendant quelques minutes là-dessus. Donc, je me réfère ici, on peut avoir beaucoup de références ici, je vous mets ça à la page 95, un certain Claude Lefort qui est devenu un classique, son ouvrage, je ne sais pas si vous pouvez lire ça un jour, « L'invention démocratique », les limites de la domination totalitaire, qui est toujours d'actualité. Le titre l'indique bien. La thèse est la suivante, et qu'elle est reconnue par tous les historiens, l'incapacité de nos sociétés modernes à se représenter comme un corps. Un corps. Vous voyez, quand vous avez des personnages sacrés, comme le roi ou autre, voyez, la société se représente elle-même dans ce personnage. Ça, c'est les sociétés holistes. Voilà. C'est impossible, parce que la présidence, c'est une fonction. C'est une fonction. Et donc, c'est une place vide qui doit être occupée, évidemment, par un tel ou une telle. Mais c'est une place vide. Et qui indique bien que la société ne peut plus se représenter à elle-même. Et apparaît ici, si vous voulez, d'une autre manière, le même énigme de l'être humain, c'est-à-dire le lien démocratique étant devenu incernable. Qu'est-ce qui nous lie ? Vous voyez, c'est une autre manière de dire la même chose que le passage, vous voyez, de la nature à la culture. C'est un passage jamais acquis une fois pour toutes, toujours menacé avec l'émergence d'une loi, d'une altérité, la loi d'inceste peut-être, etc. Le lien est incernable. Et à la place, si vous voulez, je dirais, de la place vide, se met des droits. Mais eux aussi, totalement évolutifs, ce qu'on appelle les droits humains, les droits de l'homme. Voilà ce catalogue de 89, voyez, qui est évolutif, les droits de 48, je les ai cités tout à l'heure. Et des droits qui sont toujours en excès, sur le, leur formulation, la formulation, parce que c'est une formulation évolutive, est toujours en excès sur une conscience de ce qui est juste. La conscience du droit et du juste et du lien. Et au fond, les droits indiquent dans nos sociétés, ces droits fondamentaux, indiquent une nécessité qu'au fond, une société qui ne peut plus se représenter à elle-même, ce qu'elle est, elle est dans un processus continuel d'auto-déchiffrement. Elle est dans un processus continuel d'auto-déchiffrement. Alors, je vous lis ce petit texte de Claude Lefort. La dimension symbolique du droit se manifeste à la fois dans l'irréductibilité de la conscience du droit à toute objectivation juridique. C'est pour ça qu'il faut des oppositions dans les sociétés démocratiques, des syndicats ou autres, peu importe. C'est-à-dire qui résistent à des formulations pour que des formulations puissent toujours à nouveau évoluer et pour que le processus d'auto-interprétation des sociétés ne s'arrête pas avec les questions nouvelles qui émergent. La dimension symbolique du droit se manifeste à la fois dans l'irréductibilité de la conscience du droit à toute objectivation juridique qui signifierait sa pétrification dans un corps des lois et dans l'instauration d'un registre public, donc parlementaire, où l'écriture des lois n'a d'autre guide que l'impératif continué d'un déchiffrement de la société par elle-même. Mais dans une société qui n'est plus sécularisée, laïque, qui n'a plus, si vous voulez, de référence extérieure divine, la société qui ne peut plus se représenter de manière sacrale comme un corps, d'une manière holistique, elle est renvoyée à ce processus. Elle devient processuelle, auto-déchiffrement continuel, et aujourd'hui de manière très pragmatique. La thèse moderne de l'auto-institution de la société avec le débat démocratique sur l'auto-déchiffrement de la société par elle-même et sur ses finalités, maintenant ouverte la liberté, nécessairement plurielle de donner sens. Donc vous voyez, la société reste ouverte, j'ai lu un peu vite parce qu'il y a un participe ici dans la formule, donc c'est la thèse moderne de l'auto-institution de la société, c'est cette thèse, avec un débat démocratique qui est tout à fait essentiel sur les finalités que la société se donne, elle maintient ouverte la liberté nécessairement plurielle de donner sens. Et là, je cite, si vous voulez, pour retrouver le débat philosophico-théologique, le débat entre Joseph Ratzinger, cardinal à l'époque, à Munich, avec Jürgen Habermas, précisément sur cette question, et l'accord entre ces deux hommes sur ce point essentiel que je viens de vous exposer. Voilà la phrase finale. Dans les faits, la garantie de la contribution commune à l'élaboration du droit et de la juste gestion de la force est la raison essentielle. Donc ça, c'est une formulation de Joseph Ratzinger, qui parle en faveur de la démocratie comme étant la forme politique la plus appropriée. Donc vous voyez, comme une société de droit, d'auto-déchiffrement, d'auto-institution continuelle, qui détermine ses propres finalités, mais qui laisse évidemment ouverte continuellement la place du sens. Alors, il y a évidemment des accents différents dans les débats, c'est ça qui est intéressant. Jürgen Habermas, il affirme la nécessité d'une auto-institution continuelle des sociétés démocratiques, et pour lui, il y a une implication mutuelle de droits de l'homme dans le processus de formation de la Constitution. Donc, il n'y a pas d'abord les droits de l'homme et ensuite une Constitution se met en place, mais les droits de l'homme émergent à l'intérieur des processus constituels. Et alors la thèse catholique, maintenant, je l'appelle comme ça, c'est une nuance, mais une nuance importante. Joseph Ratzinger, il insiste sur ce qui précède toujours cette institution et qui reste comme élément normatif retiré du jeu des majorités. Donc il y a un pré qui est retiré du jeu des majorités. Ce sont les droits de l'homme. Et surtout ce qu'on trouve dans son texte, que je trouve assez remarquable, une conscience beaucoup plus vive que chez Habermas de la pluralité des cultures. et de la violence aussi entre les cultures. Voilà, si vous voulez, je dirais les deux formulations, mais à l'intérieur d'un consensus démocratique extrêmement important. Et maintenant, la raison pour laquelle je vous expose cela, très rapidement, il y a, à mon avis, un lien intrinsèque entre la thèse de l'auto-institution de la société, partagée par Lefort, Habermas, Ratzinger et d'autres, et le modèle généalogique. Et c'est sans doute plus net chez Joseph Ratzinger, le modèle généalogique, c'est-à-dire une société qui ne cesse de s'auto-instituer, désigne ou se donne un normatif, une sorte de d'origine, le reprojetant éventuellement dans un commencement insaisissable. C'est tout à fait décisif maintenir un normatif d'ordre d'atteinte du jeu des majorités. Question. Voilà. Ça, c'est la question difficile et qui sous-tend le débat, par exemple, dans la société française à l'heure actuelle. Oui ou non? Est-ce qu'il y a un normatif qu'il faut retirer finalement des majorités? Quelle est la fonction des comités éthiques, par exemple, vous voyez, hein? C'est ce que la tradition catholique défend ici, hein? Quelque chose qui ne relève pas d'un jeu de majorité et que la tradition catholique a traduit dans le passé par la loi naturelle. Précisément, vous voyez, vous le trouvez là, la loi naturelle, qui est hors d'atteinte du jeu des majorités. Voilà. Habermas a lui-même, il faut dire, nuancé sa position sur ce point, et il parle lui-même maintenant, évidemment pas de loi naturelle, mais il parle de ressources. Et il dit, les démocraties modernes ne peuvent pas survivre sans les ressources normatives, anthropologiques, que représentent les religions. Et pour nous en Europe, en particulier le judaïsme et le christianisme. Voilà. Voilà, si vous voulez, je dis le problème. C'est pour ça que j'ai fait un petit peu l'excursus. J'espère que vous voyez bien le lien entre démocratie d'un côté et dans les démocraties de désigner l'énigmatique passage de culture à la nature, l'être humain comme l'être indéterminé, mais d'une certaine manière c'est formulé déjà eschatologiquement, c'est-à-dire c'est un être humain qui ne cesse au fond de se redéfinir entre guillemets continuellement, de se redonner des nouvelles finalités d'une manière démocratique sans un définitif qui est inaccessible. Si on dirait qu'il y aurait un définitif, évidemment on serait dans le totalitarisme. Et donc le modèle généalogique qui s'inscrit à cet endroit-là, parce que la question c'est toujours finalement, il y a quelle normativité ultime? Retirer des majorités, oui ou non? Et là, il y a un lien extrêmement intéressant pour relire finalement tout notre donnée scripturaire dans cette perspective, avec le retour à la Genèse, etc. Alors, le deuxième point, l'énigme de la violence ou les dialectiques. Je vous donne donc maintenant un exemple de ce mythe, entre guillemets, qui est cette dialectique. Dans la ultime forme, celle du professeur, repris par Édouard Bousset. Donc, au point de départ, il y a de nouveau, évidemment, la thèse ultime, l'idée de l'indétermination de l'être humain, l'indéfinissable, et le désir de l'être humain, qui est la manifestation de ça. Et qui est un désir, un dynamisme radicalement ouvert, dirigé, c'est là le point, vers le tout. Et puisque l'homme existe d'emblée au pluriel, la rencontre des désirs du tout produit la violence. Voilà la thèse Le désir ne s'accomplit jamais sans passer par des médiations. Il est toujours déjà régulé par la loi d'inceste, alors selon Lévi-Strauss, ou par une loi d'altérité, réfracté selon une multiplicité de règles de jeu selon les sociétés et mondes, au pluriel, pardon, de signification qui leur correspondent. Ces règles émergent dans la perspective adoptée selon une double dialectique. La dialectique du maître, de l'esclave, qui traverse toutes les relations humaines, même celles de l'amitié, des épousailles, évidemment, il n'y a pas de société, pas de relation sans traverser de nos violences, et la dialectique de l'homme et de la femme. Alors, le récit, d'abord donc la dialectique du maître et d'esclave. Alors, première possibilité, quand deux désirs du tout se rencontrent, c'est la lutte à mort. On cite toujours ici Héraclite, voyez, comme principe, si vous voulez, je dirais, l'être est depuis toujours en combat et dans une lutte à mort. Alors, l'issue peut être le meurtre de l'un par l'autre. Alors, du coup, le vainqueur reste animal. Animal, d'une certaine manière, c'est un animal qui a vaincu l'autre. L'issue peut être aussi un autre, vous voyez, une manière, je dirais, de raconter le passage de la nature à la culture. L'issue peut être tout autre. Et c'est là où s'enclenche la dialectique du maître et de l'esclave et commence ce qu'on appelle l'hominisation. L'hominisation. Alors, les deux temps de la dialectique. Le premier temps, celui qui est en train de perdre est comme hypnotisé par sa vie à sauver et demande la grâce. On a ça chez certains mammifères, d'ailleurs, on voit ça. Celui qui est en train de vaincre découvre un sentiment nouveau. Il puise dans les yeux atterrés de son vaincu un sentiment nouveau, une conscience de soi qu'il ignorait encore. Ses yeux, en effet, reflètent l'image de sa propre liberté. Désormais, le vaincu existe pour l'autre et le vainqueur existe pour soi. Et donc, c'est le début du contrat social. Un premier contrat, vous voyez, entre deux êtres. Alors, s'enclenche ici le deuxième temps du récit mythique, donc de la genèse de la société et de l'être humain. Deuxième temps, il faut nourrir l'esclave ou desserrer, ce qui est la même chose, les liens, de sorte que l'esclave puisse se nourrir et nourrir le maître. Les relations vont alors s'inverser, parce que le travail va transformer l'esclave en humanisant la nature par son travail. Il s'humanise lui-même. Alors, il est obligé de refréner ses tendances naturelles, à se maîtriser lui-même. Il découvre par l'angoisse que le maître fait peser sur lui que seule la liberté vaut la peine d'être vécue. Vous voyez, l'Exode vous raconte ça. Il devient habile dans son travail et du coup intelligent. Le maître, par contre, c'est la race finissante, devient de plus en plus dépendant de son esclave. Il vit du fruit du travail de son esclave, mais reste en même temps animal, parce que manquant le passage d'humanisation que représente et procure le travail. Voilà, je dirais, la dialectique du maître-esclave. Donc, ce récit. Vous voyez bien, c'est totalement typologique. C'est un mythe moderne. Mythe moderne, mais qui est heuristiquement extrêmement intéressant. Deux types de rapports s'expriment dans cette première dialectique. Le rapport de l'homme à l'homme, donc la sphère politique. Le rapport de l'homme à la nature, le travail et l'économique. Alors, la dialectique semble induire que le politique appartient au maître et l'économique à l'esclave. Je dis bien semble. Elle montre en même temps qu'il ne s'agit là que de l'apparence du politique et de l'économique. Apparaît ici la nécessité d'une mutation, d'une transformation, et émergent déjà différentes hypothèses. Vous avez par exemple l'hypothèse marxiste ici, à cet endroit-là. Marx vous raconte cette même dialectique hegélienne dans les manuscrits de 43, si je ne me trompe, 1843, dans ces manuscrits, et avec une hypothèse, évidemment, c'est la société sans classe qui est la visée eschatologique, et la naissance d'une classe ouvrière. Il y a aussi le lumpenprolétariat, c'est-à-dire les laissés pour compte tout à fait en bas, le quart-monde, évidemment qui ne l'intéresse pas. Et c'est finalement, il faut un parti pour arriver, c'est-à-dire ce qui devient donc le parti, c'est Lénine. Et vous voyez, une bonne partie du XXe siècle a été quand même gouvernée par ce type, je dirais, de logique. Et vous avez de l'autre côté l'hypothèse démocratique, avec la question du lien et de l'association. L'association, quel type de lien? Et s'enclenche ici, je le fais très rapidement, la dialectique de l'homme et de la femme. De l'homme et de la femme. Cette dialectique inverse la première et se situe en même temps à un niveau plus fondamental. Alors, l'inversion d'abord. La dialectique du maître et de l'esclave produit la dissociation, celle de l'homme et celle de la femme, l'association. C'est une typologie, hein. Cette dernière se situe à un niveau plus fondamental, c'est l'hypothèse de la Genèse. La première dialectique, c'est la dissociation des deux types de rapports homme-homme et homme-nature, hein, donc la violence. La deuxième, c'est la coïncidence immédiate, naturelle et nécessaire du double rapport constitutif de la réalité humaine dans la relation amoureuse qui s'oriente vers l'association du relationnel et du corporel. Donc vous voyez, inversion et approfondissement. Et c'est à partir de cela que Fessard va développer les deux temps. D'abord, le premier temps, la lutte amoureuse. Mais la lutte amoureuse, c'est tout à fait autre chose, évidemment, que la lutte du maître et de l'esclave, parce que le désir est totalement converti ici. Il ne s'agit pas d'un désir d'appropriation, mais il s'agit de chercher en autrui le sujet, le moi, et la reconnaissance mutuelle. La lutte amoureuse se termine par l'aveu amoureux, et il y a évidemment risque de mort ici aussi, risque de mort tout à fait, si évidemment à l'aveu répond pas l'aveu d'autrui. Alors le deuxième temps, la connaissance mutuelle et la relation, la connaissance mutuelle et la relation de reconnaissance ou le lien conduisent vers le travail de l'enfantement, la collaboration, etc. Et finalement avec la naissance d'une société, c'est-à-dire qui se détache, le tiers qui se détache et d'une institution qui se détache des deux. Alors, vous voyez, juste la dernière citation, universalisation. Nulle unification des volontés humaines collectives ou individuelles qui ne s'achève par un travail d'enfantement. L'accord réalisé par un contrat ou une alliance se traduit aussitôt par une collaboration qui vise à mettre à jour une œuvre ou prend corps l'unité des partenaires. Qu'elle prenne la forme d'un simple acte économique ou d'une institution juridique ou d'un ordre nouveau politique, cette œuvre se détache de ceux qui ont collaboré à l'engendrer, vit de sa vie propre comme l'enfant et devient pour ses auteurs le nœud où il communie dans une même connaissance et jouissance. Il en est du même pour les rapports quotidiens les plus fugitifs, gestes ou dialogues, dans la mesure même où ils sont des épisodes d'innombrables luttes amoureuses entre les êtres. Voilà, si vous voulez, la conclusion. Donc, après Noël, on va un peu re-regarder cela, mais je pense que ça suffit pour que vous puissiez relire ce texte, vous voyez, qui est à la fois un texte tout à fait central pour comprendre comment, au fond, la violence peut-elle être comprise, quel est son enjeu et quel type de dialectique cela produise. Et ça nous conduit évidemment du « et » vers le « ni-ni », vers une question, voilà, quelle est la vision eschatologique, finalement, que le christianisme introduit ici pour dire le salut. Voilà, je n'ai qu'à vous souhaiter encore une bonne semaine, et ensuite, de belles et heureuses fêtes de Noël.